Chapitre 14. Bon, je t'ai tout expliqué. La vie, comment elle fonctionne, sa raison même et son but. Que puis-je faire d'autre pour toi ? Question. Je n'ai rien d'autre à te demander. Je suis rempli de gratitude pour cet incroyable dialogue. Il a été d'une si grande portée, d'une si grande envergure. Et quand je regarde mes questions originales, je vois que j'ai couvert les 5 premières, sur la vie et les relations, l'argent et la carrière, la santé. J'avais d'autres questions dans cette liste originale, comme tu le sais, mais d'une façon ou d'une autre, ces discussions leur ont enlevé leur pertinence. Réponse. Oui. Mais tu les as posées. Répondons seulement rapidement à celles qui restent, une à une. Maintenant que nous passons rapidement à travers la matière. Question. Quelle matière ? Réponse. La matière que je t'ai apportée pour t'y exposer. Puisque nous la couvrons rapidement, prenons les questions qui restent et traitons-les rapidement. Question. Quelle leçon karmique suis-je censé apprendre ici ? Qu'est-ce que j'essaie de maîtriser ? Réponse. Tu n'apprends rien ici. Tu n'as rien à apprendre. Tu n'as qu'à te rappeler, c'est-à-dire à te r-appeler moi. Qu'est-ce que tu es en train de maîtriser ? Tu es en train de maîtriser la maîtrise de toi-même. Question. La réincarnation existe-t-elle ? Combien de vies antérieures à ce que j'ai eu ? De quoi était-elle faite ? La dette karmique est-elle une réalité ? Réponse. Il est difficile de croire qu'il reste un doute à ce propos. Je trouve cela difficile à imaginer. Il y a eu tant de rapports provenant de sources tout à fait fiables d'expériences de vie passée. Certaines de ces personnes ont rapporté des descriptions fortement détaillées d'événements et des données complètement vérifiables qui éliminent toute possibilité de falsification ou de tentative de tromper les chercheurs et les proches. Tu as eu 647 vies passées, puisque tu insistes sur l'exactitude. C'est la 648e. Tu as tout été au cours de ces vies. Un roi, une reine, un cerf, un guerrier, un pacifiste, un héros, un lâche, un tueur, un sauveur, un sage, un fou. Tu as tout été. Non, il n'y a pas de dette karmique. Pas au sens où tu l'entends dans cette question. Une dette est quelque chose qui doit ou devrait être remboursé. Tu n'as aucune obligation. Mais il y a des choses que tu veux faire, choisir de ressentir. Et certains de ces choix dépendent de leur désir à être créé par ce que tu as ressenti auparavant. C'est ce qu'on peut exprimer de plus juste, en parole, sur cette chose que vous appelez karma. Si le karma est le désir inné d'être meilleur, d'être plus grand, d'évoluer, de grandir, de considérer les événements et expériences du passé comme une mesure de cela, alors oui, le karma existe. Mais il n'exige rien. Rien n'est jamais requis. Tu es et as toujours été un être de libre choix. Question. Je me sens parfois très clairvoyant. Est-ce qu'on peut être clairvoyant ? Est-ce que je le suis ? Les gens qui prétendent être clairvoyants ont-ils fait un pacte avec le diable ? Réponse. Oui, on peut être clairvoyant. Tu l'es. Tout le monde l'est. Il n'y a pas une personne qui n'ait ce que vous appelez la capacité de clairvoyance. Il n'y a que des gens qui ne s'en servent pas. Utiliser la capacité de clairvoyance, ce n'est rien d'autre qu'utiliser ton sixième sens. De toute évidence, ce n'est pas un pacte avec le diable. Sinon, je ne vous aurais pas donné ce sens. Et bien sûr, il n'y a pas de diable avec qui faire un pacte. Un jour, peut-être, dans le livre 2, je t'expliquerai exactement comment fonctionne l'énergie et la capacité de clairvoyance. Question. Il va y avoir un livre 2 ? Réponse. Oui, mais terminons d'abord celui-ci. Question. Est-il correct de recevoir de l'argent pour du bien qu'on a fait ? Si je choisis de faire un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu, puis-je l'accomplir tout en atteignant l'abondance financière ? Ou est-ce que les deux s'excluent mutuellement ? Réponse. J'ai déjà parlé de ça. Question. Le sexe est-il une bonne chose ? Allons, quelle est la vérité qui se cache derrière cette expérience humaine ? Le sexe est-il purement destiné à la procréation, comme le disent certaines religions ? Est-ce qu'on atteint la sainteté véritable et l'illumination par le reniement ou la transmutation de l'énergie sexuelle ? Est-il correct de faire l'amour sans amour ? La seule sensation physique est-elle une raison suffisante ? Réponse. Bien sûr, le sexe est une bonne chose. Encore là, si je n'avais pas voulu que vous jouiez certains jeux, je ne vous aurais pas donné les jouets. Donnez-vous à vos enfants des choses avec lesquelles vous ne voulez pas les voir jouer? Jouer avec le sexe. Jouer avec. C'est un plaisir merveilleux. Et c'est à peu près le plus grand plaisir que vous puissiez avoir avec votre corps, si vous parlez d'expérience strictement physique. Mais pour l'amour du ciel, ne détruisez pas l'innocence et le plaisir sexuel, la pureté du plaisir, la joie, par un mauvais usage du sexe. Ne l'utilisez pas pour le pouvoir ou dans un but caché, pour une gratification de l'ego ou pour la domination, pour aucun autre but que la joie la plus pure et l'extase la plus élevée dans le don et le partage, c'est-à-dire l'amour et l'amour recréé, qui sont la vie nouvelle. N'ai-je pas choisi une délicieuse façon de prendre de l'expansion? Pour ce qui est du reniement, j'en ai déjà parlé. Rien de sacré n'a jamais été atteint par le reniement. Mais les désirs changent à mesure qu'on saisit des réalités encore plus grandes. Par conséquent, il n'est pas rare que les gens désirent tout simplement moins, ou ne désirent pas du tout, d'activité sexuelle, ou même toute activité corporelle. Pour certains, les activités de l'âme deviennent prépondérantes et de loin les plus agréables. Chacun ses goûts, sans jugement, voilà le slogan. Voici la réponse à la fin de ta question. Tu n'as besoin d'aucune raison pour quoi que ce soit. Sois tout simplement la cause. Sois la cause de ton expérience. Rappelle-toi, l'expérience produit le concept de soi. La conception produit la création. La création produit l'expérience. Tu veux faire l'expérience de toi-même en tant que personne qui fait l'amour sans amour? Vas-y. Tu le feras jusqu'à ce que tu ne le veuilles plus. Et la seule chose qui te fera, qui pourrait jamais, faire cesser ce comportement, ou quelque comportement que ce soit, c'est la seule idée qui émerge à propos de qui tu es. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Question. Pourquoi tu fais du sexe une expérience humaine si bonne, si spectaculaire, si puissante, si tout ce que nous sommes censés faire, c'est de nous en éloigner le plus possible? Alors qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, pourquoi les choses agréables sont-elles ou bien immorales, illégalement, ou riches en calories? Réponse. Je viens de répondre à la fin de cette question. Toutes les choses agréables ne sont pas immorales, illégales ou riches en calories. Mais ta vie est un intéressant exercice de définition de ce qui est amusant. Pour certains, le plaisir veut dire les sensations du corps. Pour d'autres, le plaisir peut être quelque chose d'entièrement différent. Tout dépend de qui tu crois être et de ce que tu fais ici. On pourrait parler bien davantage du sexe, mais rien n'est plus essentiel que ceci. Le sexe est joie, et nombre d'entre vous avaient fait du sexe tout sauf de la joie. Le sexe est sacré aussi, oui. Mais la joie et le sacré s'entremêlent vraiment. En fait, les deux sont la même chose, et nombre d'entre vous croient le contraire. Vos attitudes à propos du sexe forment un microcosme de vos attitudes à propos de la vie. La vie doit être une joie, une célébration. Elle est devenue une expérience de peur, d'anxiété, de manque, d'envie, de rage et de tragédie. On peut dire la même chose du sexe. Vous avez réprimé le sexe, tout comme vous avez réprimé la vie, plutôt que de le laisser exprimer le soi avec joie et abandon. Vous avez couvert le sexe de honte, tout comme vous avez couvert la vie de honte, en disant qu'il était mauvais et méchant, plutôt que le plus grand cadeau et le plus grand plaisir. Avant d'objecter que vous n'avez pas couvert la vie de honte, regardez vos attitudes collectives à son égard. Les 4/5 de la population du monde considèrent la vie comme une épreuve, un tourment, une période d'épreuve, une dette karmique qu'il faut rembourser, une école où il faut apprendre de dures leçons et, en général, une expérience à endurer pendant qu'on attend la vraie joie qui vient après la mort. Il est vraiment honteux que tant d'entre vous pensent ainsi. Pas étonnant que vous ayez collé la honte à l'acte même qui crée la vie. L'énergie qui sous-tend le sexe est celle qui sous-tend la vie, c'est-à-dire la vie. Le sentiment d'attraction, de même que l'intense et souvent urgent désir d'aller l'un vers l'autre, de ne plus faire qu'un, sont la dynamique essentielle de tout ce qui vit. Je l'ai intégrée à tout. Elle est innée, inhérente à l'intérieur de tout ce qui est. Les codes moraux, les étranglements religieux, les tabous sociaux et les conventions émotionnelles dont vous avez entouré le sexe, et d'ailleurs l'amour et toute la vie, vous ont presque empêché de célébrer votre être. Depuis le début des temps, tout ce que l'homme a jamais voulu, c'est d'aimer et d'être aimé. Et depuis le début des temps, l'homme a tout fait en son pouvoir pour rendre la chose impossible. Le sexe est une magnifique expression de l'amour d'un autre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Par conséquent, tu dois l'aimer. Et tu l'aimes, sauf que tu ne peux le dire à personne. Tu n'oses pas montrer à quel point tu l'aimes, de peur de passer pour pervers. Mais c'est cette idée qui est perverse. Dans notre prochain livre, nous examinerons la sexualité de beaucoup plus près. Nous explorerons sa dynamique plus en détail, car c'est une expérience, une question aux implications renversantes à l'échelle planétaire. Pour l'instant, et pour toi personnellement, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton propre corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps ni ses fonctions, ni l'amour que tu leur portes, ni votre amour les uns envers les autres. Vos émissions de télévision montrent sans vergogne de la violence, toute nue, mais redoutent de montrer l'amour nu. Toute votre société reflète cette priorité. Question. Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? En avons-nous reçu la visite? Est-ce qu'on nous observe à présent? Verrons-nous des preuves irrévocables et indiscutables de vie extraterrestre au cours de notre vie? Est-ce que chaque forme de vie a son propre Dieu? Es-tu le Dieu de tout cela? Réponse. Oui à la première partie, oui à la deuxième, oui à la troisième. Je ne peux répondre à la quatrième partie, puisque cela exigerait que je prédise l'avenir. C'est quelque chose que je ne vais pas faire. Dans le livre 2, cependant, nous parlerons bien davantage de cette chose appelée l'avenir, et nous parlerons de la vie extraterrestre, et de la, les natures de Dieu dans le livre 3. Question. Mon Dieu, il va y avoir un livre 3 ? Réponse. Permets-moi de te donner le plan. Le livre 1 contient des vérités de base, des notions primaires et traite de questions et de sujets personnels essentiels. Le livre 2 va contenir des vérités d'une portée beaucoup plus grande, des notions plus grandes et traitera de questions et de sujets planétaires. Le livre 3 est censé contenir les vérités les plus grandes que tu sois capable de comprendre à présent et traiter de questions et de sujets universels, des questions qui touchent tous les êtres de l'univers. Puisque tu as mis un an à finir ce livre, tu auras un an pour chacun des deux livres suivants. La trilogie sera complète dès le dimanche de Pâques 1995. Question. Je vois, c'est un ordre ? Réponse. Non. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as rien compris à ce livre. Tu as choisi de faire ce travail et tu as été choisi. Le cercle est complet. Question. Oui. L'utopie viendra-t-elle un jour sur la planète Terre ? Dieu se montrera-t-il aux gens de la Terre tel que promis ? Y aura-t-il un second avènement du Christ ? Y aura-t-il jamais une fin du monde ou une apocalypse telle que prophétisée dans la Bible ? Y a-t-il une véritable religion unique ? Si oui, laquelle ? Réponse. Cela mérite un livre en soi et cela comprendra une grande part du volume 3. J'ai limité ce volume d'ouverture à des questions plus personnelles, plus pratiques. Dans des épisodes subséquents, je passerai à des questions plus larges et à des sujets d'importance planétaire et universelle. Question. C'est tout ? C'est tout pour l'instant ? Nous ne nous parlerons plus ici ? Réponse. Tu t'ennuies déjà ? Question. Oui, c'était bien. Est-ce qu'on se quitte à présent ? Réponse. Tu as besoin d'un peu de repos. Et tes lecteurs ont besoin de repos, eux aussi. Il y a ici un tas de choses à aborder, à absorber. Un tas de choses avec lesquelles se débattre. Il y a de quoi réfléchir. Prends congé. Réfléchis à cela. Ne te sens pas abandonné. Je suis toujours avec toi. Si tu as des questions au jour le jour, comme je sais que tu en as même maintenant et que tu continueras d'en avoir, sache que tu peux m'appeler pour y répondre. Tu n'as pas besoin de la forme de ce livre. Ce n'est pas ma seule façon de te parler. Écoute-moi dans la vérité de ton âme. Écoute-moi dans les sentiments de ton cœur. Écoute-moi dans le calme de ton esprit. Entends-moi, partout. chaque fois que tu as une question, sache tout simplement que j'y ai déjà répondu. Puis, ouvre les yeux sur ton monde. Ma réponse pourrait se trouver dans un article déjà publié, dans le sermon déjà écrit et à la veille d'être livré, dans le film en train de se faire, dans la chanson composée hier, dans les paroles à la veille d'être prononcées par un être aimé, dans le cœur d'un nouvel ami que tu es à la veille de rencontrer. Ma vérité dans le murmure du vent, le babillage du ruisseau, le craquement du tonnerre, le clapotement de la pluie. C'est la sensation de la terre, le parfum du lys, la chaleur du soleil, l'attraction de la lune. Ma vérité, ton auxiliaire le plus sûr au besoin, est aussi effrayante que le ciel nocturne et aussi simplement incontournable, confiante que le gazouillis d'un bébé. Elle est aussi forte qu'un battement de cœur frénétique et aussi tranquille qu'une respiration à l'unisson avec moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne peux pas t'abandonner. Car tu es ma création et mon produit, ma fille et mon fils, mon dessein et mon soi. Donc, appelle-moi, où que tu sois et chaque fois que tu seras séparé de la paix que je suis, je serai là, avec la vérité et la lumière et l'amour. Fin de ce livre, tome 1, Conversation avec Dieu, écrit par Neil Donald Walsh.